Europe 1,
11h midi, et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait aujourd'hui à un endroit dont le seul nom vous fait décoller tout de suite, je vous emmène en Polynésie française. Et ce que je trouve de plus délicieux là-bas, c'est la douceur. Et franchement, je peux vous dire que pour moi, il n'y a pas de lieu plus doux au monde. Il faut imaginer entrer tout doucement dans l'eau du lagon. Une eau chaude, il fait 28 dans l'eau à peu près. Un sable blanc, fin, tout doux, délicieux, qui se glisse entre les orteils. Et puis tout de suite, l'envie de juste de s'arrêter. C'est comme ça, la Polynésie. De s'arrêter, de s'agenouiller dans l'eau chaude, juste pour regarder le spectacle tout autour. L'eau turquoise lumineuse, le récif de corail au loin sur lequel les vagues viennent s'échouer, les montagnes d'un beau vert sombre tout autour, et l'intensité de ce petit moment-là, qui est juste un immense plaisir. C'est juste sublime. Voilà. C'est extraordinaire, la plaisir. J'adore cet endroit. Et pour m'accompagner au paradis terrestre, Nathalie Corée, notre Vainée à nous.
Oui, Vainée s'est gonflée. comme ça, on s'en débarrasse, c'est fait.
C'est fait, oui.
Non, mais moi, vous me vendez du rêve. Moi, je suis contente, mais enfin, minimum 21 heures de vol de Paris. Moi, je ne peux pas, j'ai les jambes qui gonflent.
Mais quelle vieille mégère à cariâtre.
Mais je ne peux pas, je fais de la rétention.
On est en train de rêver. Et l'avion, c'est trop long. Non, mais c'est pas
mais
vrai.
Mais écoutez, c'est aux antipodes de la France.
Mais alors, ça se
je
mérite.
Je rappelle la définition des antipodes. C'est le lieu de la Terre diamétralement opposé à un autre.
Bah oui.
Donc c'est trop loin,
mais
c'est trop
paradis.
Long.
Mais ce serait pas le paradis si c'était au milieu de l'Europe.
Ah bah ça c'est sûr. Enfin, vous m'emmènerez quand même.
C'était préservé. Non, oui, je vous emmènerai, promis.
D'accord. Bon.
Avec nous également Didier Ferrat du guide Lonely Planet qui rejoint notre belle aventure puisque Jean-Bernard Carrier lui est parti se dorer la pilule en vacances. On lui fait une petite bise d'ailleurs parce que je pense qu'il nous écoute.
Mais petite. Hein.
Petite parce qu'il nous a lâchement abandonné. Mais ça nous permet d'être avec Didier. Bienvenue Didier.
Bienvenue. Bonjour Philippe. Merci.
Didier du guide Lonely Planet, la Polynésie en quelques mots pour vous.
Alors, la Polynésie, ce sont 118 îles paradisiaques perdues dans le Pacifique Sud, hein, ouais. Entre la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud.
Mais c'est immense.
Pas tout près. Et oui, parce que ce sont 5 archipels, tous très différents, mais sur un territoire qui est quand même aussi grand que l'Europe.
Ah, bah voilà.
Et puis surtout,
ah, oui.
Ce sont 50 nuances de bleu, hein, le sable blanc, les coraux, les cocotiers, mais aussi beaucoup plus surprenant qu'on ne croit. Ce sont aussi des montagnes volcaniques majestueuses, ouais. Et une culture et des traditions extrêmement vivaces.
Vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. Puisque vous nous donnerez les bons plans pour aller là-bas. Il en faut des bons plans parce que c'est un peu loin, un peu cher, mais on en reparlera. Et puis nous serons tout à l'heure en direct avec un aventurier, un Polynésien exceptionnel, originaire de l'île de Taha en Polynésie. C'est un vrai aventurier, un dur. Hein. Beaucoup le considèrent comme le plus grand aventurier de l'histoire de Koh Lanta. C'est Tewira, je lui demanderai comment ça se prononce, et Taewi. La Polynésie, attention, c'est parti, oubliez absolument tout, nous glissons tout doucement vers le paradis. Hop, laissez-vous aller.
Et si on partait voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
Un jour, je suis sur l'île de Moréa avec une amie polynésienne qui s'appelle Titaina et elle me propose d'aller rencontrer quelques poissons. Alors, je précise quand même que j'ai rien, j'ai pas de matériel avec moi, je suis juste là en maillot de bain en train de profiter du lagon. Et elle me répond, mais t'inquiète, t'auras besoin de rien, juste de t'asseoir. Alors elle m'emmène un peu plus loin dans le lagon calme, à l'eau turquoise, lumineuse. Elle m'emmène sur une sorte de fond sableux près de la barrière de corail, un lieu qu'elle connaît. Et elle sort de sa poche quelque chose qu'elle ne me montre pas et qu'elle met dans sa main. Alors, je vous avoue que l'endroit est si beau, le moment si doux, que je pose pas trop de questions. J'ai juste envie de me laisser porter. Et elle s'écrie tout à coup « Regarde, regarde, elles arrivent !» Et je vois dans l'eau, à une dizaine de centimètres de profondeur, deux raies. Deux grosses raies d'un bon 50 centimètres de large qui s'approchent de nous. Et elles s'approchent pas en ligne droite, un peu en tournoyant, en faisant des cercles, mais elles s'approchent clairement de nous. Alors Titaina a l'air absolument radieuse, ravie même, et moi ben, je passe plutôt du paradis à l'inquiétude. Les raies, en général, j'aime pas trop, parce que c'est venimeux, il y a une sorte de dard sur la queue, et c'est pas dommage de les avoir attirées vers nous, là ? Et elle me dit, t'inquiète, si tu les caresses dans le bon sens, elles ne te feront rien. Donc je comprends qu'il faut pas trop les effrayer, pas les toucher, je serre les bras, je regarde à moitié étonné et à moitié effrayé, et tout à coup j'assiste à une scène étonnante. Tout en douceur, Titaïna s'assoit dans l'eau, fait face aux raies, qui s'approchent et viennent contre elle. Mais quand je dis contre, c'est tout contre. Les raies la frôlent, les raies passent au-dessus de ses jambes avec leur longue queue qui met un temps infini à passer. Mon amie sourit et moi je suis absolument tétanisé. Et elle me dit, vas-y, fais pareil, assieds-toi. Et je te dis, il faut les caresser dans le bon sens et tout va bien. Donc je m'assois, je vous avoue que je fais pas trop le malin, je ferme même les yeux quand elles approchent. Je suis assez inquiet à l'idée d'être piqué. Les raies me tournent autour, l'une me passe au-dessus des jambes. Vas-y, caresse-les, dit Titaïna. Mais caresse vraiment, oui, vas-y, caresse. Et donc je tends timidement la main, et lorsque la raie passe, j'ose à peine l'effleurer, j'ai peur qu'elle prenne ça mal. Mais je touche à peine et c'est plutôt doux. Et la raie, incroyable, semble aimer ça. Elle fait un demi-tour immédiatement et elle revient. Vas-y, caresse, elle aime ça. Et je me remets à caresser la raie, qui clairement vient se glisser contre ma main. C'est pas moi qui caresse, c'est la raie qui se frotte contre la paume de ma main. La sensation est juste incroyable. Un câlin avec un poisson, c'est presque surnaturel. C'est doux, c'est très légèrement gluant, mais c'est surtout fascinant. Mon amie me révèle alors qu'elle avait un petit peu de nourriture dans la main pour attirer les poissons et elle me dit « Tu vois, je t'ai dit que ça se passerait bien. » En Polynésie, la douceur est partout.
Europe 1.
11h midi, et si on partait ? Philippe Googler.
Ah, j'y suis encore là. C'était bien.
Oh non, mais.
C'était bien, j'ai adoré.
Oui, alors, il y a le côté poétique, et puis il y a le côté caresser l'arrêt avec Philippe Googler. Je trouve ça spécial à lundi, moi. Mais bon, non, mais il faut le dire.
Ce matin, mais vous êtes déchaîné.
Mais c'est pas moi. J'ai écouté, moi, je trouve ça magnifique.
De caresser les raies.
Sûrement, je vais faire ça au marché dimanche, tiens.
Je sens que ça va déraper.
Chez le poissonnier, sur l'étal.
Bah, c'est-à-dire, je peux pas faire plus de 20 heures d'avion.
Ça aura
bien.
Moins de charme.
Ouais, oh, bah, c'est sûr. Non, mais on y était en tout cas. Hein.
Encore plus de Polynésie dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, 11h midi. Et si on partait ?
Philippe Googler.
Et si on partait sur une terre merveilleuse ? Il y a des générations de voyageurs, d'explorateurs, d'artistes qui en sont tombés amoureux. Et franchement, il y a de quoi. Bougainville, le grand navigateur, disait même « c'est l'image absolue du paradis terrestre ». C'est pas rien, quand même.
Oui, ouais, mais c'est Olivier de Kersauzon aussi, je crois, l'amiral.
Ouais.
C'est pas des blagues qui disait une phrase magnifique que je ne vais pas retrouver, bien sûr.
Ce qu'il disait.
Rendez-vous dans 2 heures. Non, parce qu'il y a tout. Et en fait, il était tombé amoureux de Fénois. Et il disait « parce qu'il y a tout et que les gens sont doux ».
Mais c'est ça.
Quelqu'un qui a voyagé le monde entier, c'est fou. Quand
absolument.
Même.
Et c'est là qu'habite la douceur. Mmh. Si vous voulez avoir une définition terrestre de la douceur, physique, bien vous allez là-bas. Nous sommes en ligne avec un ambassadeur de la culture polynésienne et un aventurier, surtout, qui a régalé des millions de téléspectateurs avec ses exploits dans Koh-Lanta. C'est le spécialiste du tressage de feuilles de bananier, ce qui doit faire mal aux doigts, ça n'a jamais réussi à tresser sans me faire mal aux doigts. Et c'est le recordman du nombre de jours de survie, 103 jours. Bonjour Teura.
Hey, Yorana Philippe, bonjour tout le monde.
Yorana ? On dit Yorana, Yorana, Yorana.
Oui.
Yorana.
Qu'est-ce que ça veut dire votre prénom exactement ?
Alors, le prénom Teheura, c'est la couronne rouge, littéralement.
La couronne rouge, ça a un sens particulier ?
Oui, en fait, à l'époque des rois, enfin, on peut aussi l'appeler la couronne des rois, puisque à l'époque des rois, il n'y avait que les rois qui avaient le droit de porter la couleur rouge.
Ah, d'accord. Alors, vous êtes originaire de l'île de Taha, qui est en Polynésie et qui est surnommée également l'île Vani. Moi, c'est une de mes préférées, j'aime beaucoup cette île. Elle est moins connue, mais elle est délicieuse, elle est à l'abri du monde. Mm-hmm. Alors, quand vos amis de métropole veulent venir vous rendre visite, ça donne quoi comme voyage ?
Ah !
Ça donne une expédition plutôt,
ouais.
Comme disait Nathalie. Voilà, il faut être patient. Après les 20 heures de vol, il faut encore passer deux îles. Parce que sur Taha, on n'a pas d'aéroport. Donc forcément, on atterrit sur une île à côté, qui est Arayatea, et puis on prend un petit bateau. Et là, on découvre Taha, l'île Vani.
Ah, donc il faut aller d'abord jusqu'à Tahiti, reprendre un vol pour une île, et de cette deuxième île, prendre un bateau.
Voilà. Ou alors, une deuxième option, encore plus, on va dire, locale, parce qu'on a, de prendre la goélette. La goélette qui fait les frettes de marchandises et quelques passagers. Mais là, ça dure une nuit de voyage jusqu'à Taha.
Ah, mais c'est formidable, ça, pour le coup.
Ah ouais, vous l'avez déjà fait, ça?
Mais on passe de bons moments sur le bateau.
Oui, 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 parce que c'est tellement, tellement local, tellement typique. C'est vraiment extraordinaire.
Il faut avoir du temps. Et très préservé, justement, par certainement cet éloignement.
Ouais. Et donc là, sur la goélette, c'est des habitants plus des marchandises, tout mélangé.
Exactement, exactement. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que à l'époque de mon époque, hein, quand j'étais beaucoup plus jeune, on s'arrêtait sur l'île de Huaine. Il était à peu près 3h ou 4h du matin et on était réveillé par l'odeur des steak frites, des grillades. Et donc forcément, on descendait prendre un petit plat de steak frites avant de remonter sur le bateau.
À 3h du matin, un steak frites? Qu'est-ce qui mange des steak frites à 3h du matin?
Mais tout le monde.
Il faut bien se nourrir. Il faut, voilà. Non, mais c'est surtout cette odeur qui nous attire. Quoi. Voilà.
Oui, c'est l'odeur qui est typique.
Oui, mais enfin, 3 heures, excusez-moi, mais pourquoi 3h du matin, un steak frites? Pourquoi 3h?
Le temps qu'ils arrivent.
Parce que le bateau arrive dans ces heures-là sur Huaine.
C'est le casse-croûte d'arriver. Et alors, c'est une île qui est très préservée, Taha. Hein, elle est 10 fois plus petite que Tahiti. Il y a combien d'habitants?
Entre 5 et 6 000 habitants.
Ouais. Et alors, cette île, parce que ce que j'aime bien sur cette île, c'est qu'il n'y a pas de plage. Donc on se dit, mais mince, je suis venu en Polynésie, il n'y a pas de plage.
Exactement.
Mais il y a bien mieux que ça.
Oui, exactement. Taha n'a pas de plage autour de l'île, mais on a les motus. Et sur les motus, y a de la plage, il y a de quoi pique-niquer, il y a de quoi se nourrir, il y a de quoi tout faire, quoi, en fait, de passer un bon moment en famille ou entre amis. Et,
alors, il faut dire quand même que le motu, parce que tout le monde ne connaît pas le motu, c'est un petit îlot de sable qui est un petit peu au large, mais quoi 200-300 mètres de l'île principale, et les gens vont pique-niquer là-dessus.
Exactement, en famille, entre amis, et dans mes souvenirs, on y passait presque toute la semaine pour fêter le Nouvel An, par exemple.
Ah bon? Non, mais c'est-à-dire que vous partiez avec votre famille pendant une semaine sur le banc de sable?
Oui, exactement, on allait camper directement, et puis on faisait des navettes pour venir ravitailler si nécessaire. Et donc on y passait beaucoup, beaucoup de temps, et puis... Même quand j'avais encore mes grands-parents qui vivaient sur le motu, on y allait ou les week-ends ou pendant les vacances. Et là, on ramassait des coquillages pour confectionner des colliers de coquillages qu'on vendait au marché.
Ah. Donc, c'est un petit îlot minuscule, le motu. Comment on peut y rester? Comment on peut y habiter longtemps?
Il y a des motus qui sont assez grands.
Ah bon?
Pour pouvoir accueillir beaucoup de monde. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des motus où on fait le tour en 2 minutes à pied. Mais il y a des motus qui sont habités d'ailleurs aujourd'hui aussi.
Ah ouais?
Avec des habitations.
D'accord. Alors tout ça, il faut imaginer tout ça dans un décor paradisiaque. Hein. C'est eau turquoise, sable blanc, les montagnes vertes. Enfin, c'est vraiment absolument charmant et délicieux.
Et le petit bruit des vagues qui déferlent sur le récif, juste derrière le motu.
Ouais, c'est les vagues qui s'abattent au loin sur le récif corallien qui protège l'île, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Oh là là, rien que d'en parler, j'ai envie d'y aller. Là.
Oh là là, oui, il faut partir maintenant. Hein.
Et les Polynésiens ont des bateaux pour aller d'une île à l'autre, d'un motu à l'autre, comment ça se passe?
Oui, beaucoup de Polynésiens ont des bateaux parce que forcément c'est plus pratique pour aller ou faire les courses, comme par exemple sur Taha, comme je disais, il n'y a pas d'aéroport, donc il n'y a pas de très grandes boutiques, des choses comme ça. Donc, on prenait le bateau ou la navette pour aller sur l'île de Raiatea pour faire des grandes courses. et aussi pour aller à la pêche, sur le moto.
Donc, quand on veut faire, en gros, ce qu'on appelle chez nous le supermarché, quoi, le jour du supermarché, il faut prendre un bateau pour aller faire les provisions. Pourquoi ? Pour une semaine, pour 10 jours ? On y va tous les combien ?
Ça dépend. Soit c'est pour le week-end, s'il y a une grande fête qui se prépare, mm-hmm. Ou pour la semaine exactement. Et puis sinon, le mieux forcément, c'est d'aller pêcher et puis avoir son parcelle de terre pour cultiver. C'est le meilleur supermarché.
Et quand il y a eu le confinement, pardon, parce qu'on pense évidemment à chaque fois à ça, comment ils se ravitaillaient justement des îles ? Il y avait, comment ça se passait ? Vous savez à peu près ou ?
Alors, moi, j'étais pas en Polynésie à ce moment-là, mais je sais que les îles en Polynésie étaient assez bien ravitaillées à ce moment-là encore.
Ah oui.
Donc, oui. Et puis, on a la chance, nous, sur Taha, de ne pas avoir de couvre-feu, de ne pas avoir tout ce genre de choses. Mais surtout, on a la chance d'avoir du poisson.
Ah, voilà.
Et la terre pour...
Du poisson et des jardins absolument prolifiques.
Exactement. Comment
est-ce qu'on vit sur une île où... Parce que vous dites qu'il y a 5-8 000 personnes. Comment est-ce qu'on on fait... Parce qu'on va forcément tout le temps croiser un peu les mêmes gens. S'il y a quelqu'un qu'on déteste sur l'île, on va tout le temps tomber dessus. Donc comment on fait pour vivre en harmonie sur des petites îles comme ça ?
Il faut tous s'aimer, il n'y a pas à dire.
Ouais, mais c'est vrai que tout le monde ne s'aime pas, mais on fait comme on peut. Hein, et puis surtout qu'on n'a pas de trottoir, donc c'est difficile de changer de trottoir comme on veut. Donc non, après voilà, les mauvaises choses sont un peu mises de côté, quoi. Et puis on vit au jour le jour.
Ouais.
C'est vraiment ça. Hein.
Ouais.
Quand il y a bagarre, il y a bagarre. Et puis le lendemain, on sera biboche, c'est comme on dit.
Oui.
Et puis voilà. Non, c'est la vie des îles, c'est cool la vie. Et puis on verra ce qui se passe demain.
Restez avec nous, Théoura, dans un instant. On découvrira plus encore votre île de Taha et la Polynésie. A tout de suite sur Europe.
Europe 1, 11h midi. Et si on partait ?
Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 tous les jours, un grand voyage, aujourd'hui un immense voyage. Nous sommes en Polynésie et en ligne avec Théoura. J'arrive pas à prononcer votre nom correctement, je ne sais pas pourquoi je bloque. Comment ça se dit exactement ? Vous êtes l'aventurier culte de Koh Lanta. Hein ?
Alors c'est Teheyura.
Teheyura.
On roule les airs,
me semble-t-il.
Teheyura.
Oui,
d'accord. Alors, vous avez grandi donc sur l'île de Taha, qui a dû être un terrain de jeu quand vous étiez gamin, absolument incroyable. Est-ce que c'est cette île qui a fait de vous l'aventurier que vous êtes ? Qu'est-ce que vous y avez appris ?
Oui, certainement. J'ai vécu toute mon enfance jusqu'à mes 20 ans avant de partir en France. J'ai appris à monter au cocotier, à ouvrir une noix de coco, à pêcher. Enfin, j'ai appris énormément de choses. Il faut savoir qu'en Polynésie, les enfants ont beaucoup de chance d'avoir assez de liberté d'aller jouer dans les champs, d'aller à la mer. Et puis on apprend en regardant les... ce que nous on appelle les anciens, les rouhou, tout ça. Et voilà, moi j'ai eu toute cette chance et je pense que c'est ça en fait qui a fait que j'ai cette expérience aujourd'hui.
Vous étiez un casse-cou ?
Assez, j'étais assez casse-cou.
Vous étiez un vilain garnement ?
Jusqu'à me casser un bras, donc pour dire.
Vous étiez un casse-bras. Est-ce qu'il y a des gestes que vous avez appris à Taha qui vous ont été vraiment très très utiles ?
Déjà, pour ouvrir une noix de coco, sur Koh Lanta par exemple, le premier jour où je mets le pied sur le sable, j'ai ouvert une noix de coco très rapidement parce que j'avais déjà faim.
Oui, alors que les autres pataugeaient.
Et comment
c'est ça.
Mais comment vous l'ouvrez ? Avec rien ?
Oui, avec ce que j'avais sous la main, j'avais un bout de bois et voilà, j'ai planté ma noix de coco dessus pour décortiquer la bourre de coco et puis avec un caillou, je l'ai ouvert en deux.
Ah oui, et tout de suite, ça aide quand on a faim.
C'est ce qu'on va faire à midi.
On a tous une vision paradisiaque de la Polynésie quand on en parle depuis la métropole et puis quand on la visite mais qu'on habite en métropole. Mais est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est vraiment cette douceur qu'on perçoit quand on arrive là-bas et qu'on vient de l'extérieur?
Oui, 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 bien sûr. Et puis, bon, c'est vrai que quand on arrive dans la capitale, on a encore cette circulation de voitures. Mais quand on fait le tour de Tahiti et qu'on arrive du côté de Tahiti, tout ce qui est presqu'île, là, on retrouve vraiment le côté nature de l'île. Ou alors, c'est quand on part dans les îles, comme Mataha ou Marquise ou Tuamotu et tout ça. Et on retrouve vraiment ce côté, ce qu'on peut dire, paradisiaque, où on voit de très loin les cocotiers, les sables blancs, et donc c'est juste magique. Et comme Mataha, par exemple, quand on arrive, on n'a pas cette pollution de voitures qu'on peut avoir dans les grandes villes. Et là, on retrouve cette douceur de bien vivre.
Et il y a une douceur même dans la façon de s'exprimer. Quand on vous écoute, là, tout de suite, on prend le rythme. Hein, tout de suite, ça se ralentit. Et puis c'est immense, hein, la Polynésie. C'est grand comme l'Europe. C'est une succession d'archipels absolument gigantesques. Et toutes les îles sont très différentes. C'est vraiment... Il faut une vie pour découvrir toute la Polynésie. On n'a pas parlé encore de la gastronomie, parce que vous, c'est très important pour vous, la gastronomie. Je rappelle que vous êtes aussi chef cuisinier près de Béziers. Vous avez un food truck qui s'appelle le Manatoa, qui signifie l'esprit du guerrier. Qu'est-ce qu'on mange de bon à ta... La saveur de votre enfance.
Forcément, il y a le... À ta, même toute la Polynésie, ce qu'on appelle le harima, qui est le repas traditionnel. Ce n'est pas juste un plat, mais c'est le repas, en fait, qui est traditionnel. C'est-à-dire qu'on fait cuire tout le repas dans un four traditionnel qui est un four à l'étouffée. Donc, on fait chauffer des pierres volcaniques pendant des heures. Et puis, une fois les pierres bien chaudes, on tasse tout ça et on met un peu ce qu'on a envie de manger ou ce qu'on a.
Mais les pierres, elles sont sur le sol, elles sont dans le sol, elles sont où les pierres?
Dans le sol. Donc, on creuse, on fait chauffer les pierres volcaniques dans ce trou, on aplatit tout bien et puis on vient poser les aliments selon la puissance de la chaleur du four, le poisson, le... Enfin, voilà, le taro, le manioc, la banane, le poé. On met un peu tout ce qu'on aime et tout ce qu'on a sur ces pierres chaudes et on recouvre tout de feuillage pour étouffer le tout. Et puis, on laisse faire la nature pendant 2-3 heures de cuisson minimum.
Et on le recouvre, on referme, on remet de la terre dessus, on met ça totalement sous terre?
Oui, totalement hermétique. Faut qu'il n'y ait plus de fumée qui en échappe et donc bien étouffé. Avec des feuillages, de la terre et tout ça. Et puis au bout de 3-4 heures. Ouais.
C'est hyper sain comme cuisine du coup.
Voilà, et on prépare la table pour toute la famille.
Ouais. Merci beaucoup, Tevora. Vous nous faites rêver parce qu'on a tous envie de partir maintenant. Et malheureusement, le seul inconvénient, c'est que ce n'est pas très pratique pour y aller. Et il faut vraiment... C'est vraiment une expédition à caser une fois dans sa vie.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a les pieds en Polynésie, on oublie tout le reste avant.
Oui, puis comme vous le disiez très justement, il faut préserver l'éloignement. Je trouve que c'est joli comme phrase.
Ça fait, oui, aussi. Très bien.
Ça fait partie du mythe du voyage, d'aller loin, loin, loin.
Absolument. Et alors, il y a quand même une petite question que j'aimerais vous poser. C'est les huîtres de Polynésie, vous savez, parce que les huîtres perlières, c'est là-bas.
Oui.
Est-ce que c'est des huîtres qui se mangent aussi ou c'est des huîtres que pour les perles? Comment on fait faire une perle à une huître?
Alors, pour la perle, c'est en fait ce qu'on appelle un processus de greffage où on vient greffer une nucléus à l'intérieur, c'est une petite perle de nacre, voilà, si je ne me trompe pas. Et puis, on cultive, on laisse ça mûrir. Et au bout de quelques mois, il y a la perle qui est formée à l'intérieur.
Ah, mais il faut ensemencer l'huître avec une première petite perle.
Oui, voilà. Ce qu'ils appellent nucléus. Et donc, autour de cette perle de nacre, il va se former ce qu'on voit, ce qu'on appelle la perle.
Didier ?
Oui, les perles, les premières perles qu'on greffe dans l'huître, en fait, souvent, elles sont faites à partir de moules. C'est quelque chose d'assez incroyable. Oui, Parce que c'est là que ça le prend. C'est avec ce matériau que ça prend le mieux, en fait.
À partir de quoi ? De coque de moule ?
De coque de moule, exactement.
Ah bon ?
Oui, tout à fait. C'est pas des perles en plastique. Et c'est souvent fait à partir de coque de moule.
Ah ouais, ouais. Mais alors, l'huître qui a fait la perle, est-ce qu'elle se mange ?
Oui, une partie de l'huître se mange aussi.
Ah bon ? D'accord.
Ça s'appelle le korori.
Mais c'est gros, non ? C'est très gros.
Oui, ça, je crois que c'est 30 cm de diamètre. Parfois, c'est vraiment énorme.
Ah oui.
Ouais, bon.
Très bien. On pourrait parler de
C'est énormément de travail pour avoir une jolie perle.
On pourrait parler de la Polynésie pendant des heures avec vous, Teuera. J'y arrive pas bien, en vrai.
Ça sera avec grand plaisir.
Je rappelle que vous avez sorti un livre qui s'appelle « Aventurier dans l'âme » aux éditions Au Vent des Îles et qu'on peut vous retrouver donc sur les routes du Languedoc avec votre food truck, vous avez donné envie d'aller y manger.
Exactement.
Qui s'appelle le Manatoa. Merci.
Exactement, et vous serez les bienvenus.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
C'était super de voyager avec vous. Dans un tout petit instant, on va retrouver Nathalie Corré qui a enquêté et dégoté les infos les plus intonantes. Les plus intonantes.
Mais c'est joli, mais vous parlez notre langue aujourd'hui. C'est ça qui est formidable avec vous. On voyage grâce à votre langue.
Qu'on puisse trouver sur la Polynésie. À tout de suite sur Europe 1.
11h midi. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, tous les jours de nouvelles aventures autour du monde, aujourd'hui en Polynésie. Alors Nathalie, je vous trouve très courageuse parce que moi quand on me dit Polynésie, j'ai envie de m'arrêter, de contempler, de rien faire.
Mais non, mais pas en ce moment.
Alors que vous avez bossé pour dénicher l'insolite.
Mais oui, mais en ce moment, il ne faut pas rester comme ça. Mais
pourquoi ?
Non, c'est juillet.
Et alors ?
Mais c'est les grandes fêtes traditionnelles.
Ah oui,
c'est l'époque, toute la presse, les médias ne parlent que de ça. En plus, ils ont attendu, puisque l'année dernière, Covid oblige, il n'y a pas eu.
Ah,
alors
donc
là,
ça se lâche.
C'est la 140e édition des fêtes de la Heva. Et c'est vraiment en Polynésie. Vous voyez, vous m'avez passé votre tic. La Polynésie française.
Mais c'est dur. Le dire. Bon. Après, je vous donnerai le nom, répéter le nom de l'invité.
Oui, c'est ça.
Teuera.
En tout cas, c'est le grand rassemblement autour des traditions, de la culture, des hommes forts, des exploits, etc. Alors, je vais commencer par la première, qui est la danse du cochon. Alors,
la danse du cochon, ça
inutile
promet.
Inutile de vous mettre à quatre pattes, ça n'a rien à voir avec ça.
Ni de grogner.
Ça n'a rien à voir avec notre concours de cri du cochon que nous avons en France. Ça n'a rien à voir.
Et on a un champion du monde du cri du cochon qui est formidable.
Oui,
je vous le présenterai.
Oui, tout à fait. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Bon, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la danse du cochon polynésienne. Alors, avec le tatouage et la sculpture, la danse, c'est l'un des traits identitaires et culturels forts des Marquises notamment. Et alors, je vais vous faire écouter la danse du cochon, car c'est une histoire qui se danse. C'est sur le souffle que ça se passe.
La danse du cochon.
Oui, c'est une chorégraphie à imaginer. L'homme est torse nu, dans un costume végétal, fait de feuilles de bananier.
On vous sent en transe,
au bras,
c'est
en pagne.
C'est la danse du trait, cochon.
Et
là,
il expulse le souffle dans un son, en claquant des mains au rythme du tambour. Alors, voilà.
Oui. Voilà. On se croirait chez les All Blacks.
Voilà. Eh ben, oui, forcément, il y a du haka un peu quelque part.
Mais oui, le haka, ça a été inventé dans les Marquises.
Ben exactement, c'est pour ça que tout ce... En tout cas, le souffle, c'est très intéressant parce qu'ils disent que c'est le coffre et le cœur qui donnent le rythme à l'existence. Ah. Voyez, un peu méditation. Donc, ce souffle, c'est celui des hommes, ce serment fait aux parents de transmettre la tradition orale. Voilà, tout ça, c'est très important chez eux. Vraiment, la danse, c'est pas du tamouré, là. Là, on est vraiment dans une danse de la terre qui vous relie avec les éléments. Enfin, c'est quelque chose de fascinant. Moi, j'ai vu des vidéos tout le week-end, parce que je vous ai dit, j'ai pas eu le temps d'y aller.
Et ça a l'air assez viril.
Ah oui, c'est viril, mais les femmes aussi. Les femmes aussi dansent. Alors, des mouvements de brasses, des mouvements de hanches, évidemment, toujours proche du tamouré aussi. Mais c'est vraiment, c'est très, très, très beau. Alors, plus classique, je dirais. Enfin, néanmoins, il faut quand même le faire. La marche sur le feu. Hein, bon, évidemment, ne faites pas ça chez vous, Philippe.
Tous les week-ends, ça c'est beaucoup plus classique. Beaucoup
marche sur le feu, mais c'est quoi ? C'est un rite
Alors, tout à fait. Ben, ça fait partie des fêtes traditionnelles. Alors, une sensation particulière et inoubliable, hein, surtout pour la plante des pieds, bien sûr. Donc ça, je vous déconseille. Le grimper de cocotier, bon, vous connaissez aussi, vous l'avez déjà vu. C'est un grand classique. Alors, dans la série Le mystère de la force, il y a le lever de pierre. En pareo string, alors ça,
en
évidemment.
Quoi, en quoi
en pareo string. Le pareo, vous savez, il est en forme de string derrière. Oui, il ne faut pas être gêné, Hein, donc voilà. Et couronné de fleurs, tel un samouraï. Alors, dans la catégorie des extra-lourds, quand même, ils sont censés porter 170 kilos.
Une seule personne.
Ah bah évidemment. C'est homologué quand la pierre est sur l'épaule, D'accord. Et l'autre bras levé en quelques secondes. Tout ça, c'est dans le mental, par exemple.
170 kilos.
Voilà.
Oui. Ah, sur l'épaule d'une seule
oui,
personne.
Oui, en 5 secondes, il faut lever la pierre et crac.
So what?
Voilà. Non,
mais c'est impossible.
Non, mais c'était. Bah, bien sûr que si, c'est possible puisqu'ils le font. Mais bien sûr, non, mais non, je vous assure. Non, mais c'est très impressionnant. On est vraiment dans l'exploit, dans la virilité, dans la force, dans le mental.
Vous aimez ça, hein?
Et oui, j'adore. Et j'aime l'homme tahitien, si ça voulait me faire dire. Non, mais arrêtez avec ça. Alors, ça, le portrait de fruits.
Très concentré sur les hommes, parce que les femmes participent quand même beaucoup.
Bien
aussi.
Sûr, mais la vaillée aussi.
Elle ne nous en parle jamais, les femmes.
C'est ça,
jamais.
Alors,
mais attendez, mais si vraiment... la vaillée a porté 10 kilos de fruits, et moi, quand je porte 5 kilos de pommes, déjà, en revenant du marché, je me démets l'épaule. Alors bon. Non, mais c'est parce que c'est évidemment. Bon, les kilos sont impressionnants. Le portrait de fruits, donc je vous le dis. Les jeunes veulent. Il faut vraiment se mettre dans l'idée que les jeunes veulent. Faire perdurer la tradition.
Oui, c'est
quelque chose
là-bas.
Qui s'apprend vraiment de père en fils.
C'est pas du folklore, c'est vraiment voilà. Quelque chose qui est très très
exactement.
Apprécié. On
Merci
est de père
Didier.
En fils aussi, on pratique ces sports de père en fils, de mère en fille.
Et puis là, c'est un rassemblement qui fait venir aussi des gens des îles Samoa, d'Hawaï, enfin tout le monde est venu pour faire ces fameuses compétitions. Et là, enquête, parce que je sais que vous voulez vous inscrire, donc en catégorie tout ou et tout ou master pour vous. Là, on concourait 30 kilos quand même, déjà de fruits, c'est déjà pas mal. Et dans la catégorie reine, des 50 kilos, ouais. C'est un jeune de 21 ans qui a gagné cette année. Et ouais. Franchement, bravo à lui, c'est formidable. Alors, nous allons parler, puisque vous voulez que je parle des femmes, nous allons parler de la vaïnée. Alors, oui. La vaïnée. Alors, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas la connotation sexy des cartes postales. Avec le petit maillot de bain en truc de coco, le cocotier plage dorée, la feuille de tiaré, la pose lascive. Alors là, non. Stop avec ça.
Mais
on arrête
fleur,
avec
en
ça.
En revanche, la fleur sur l'oreille, il y a beaucoup de femmes qui portent ça.
Alors
en,
oui,
en
parce que je vais vous expliquer.
Et c'est pas une légende. Hein,
pas
c'est...
du tout. C'est, alors effectivement, on la porte de deux façons différentes. Soit vous l'avez sur l'oreille gauche du côté du cœur et la fleur indique que la personne est prise. Ou vous la portez sur l'oreille droite. La fleur signifie que son porteur est disponible.
Ah,
parce que c'est
valable
pour les hommes et les femmes. Hein.
Ah, les hommes mettent des fleurs sur les oreilles
oui,
aussi.
Mais en bouton. C'est-à-dire la fleur de tiaré ouverte, c'est pour les femmes et la fleur au bouton, c'est pour les hommes.
Ah, j'avais pas remarqué sur
mais
les
Nathalie,
hommes.
Mais Nathalie, je ne vois pas de fleurs sur vos oreilles. Je suis très déçue.
Non, mais alors surtout que moi j'ai failli en mettre une de chaque côté parce que je trouvais ça plus joli. Mais attention, parce que là ça devient pittoresque. Parce que là, sur chaque oreille, ça veut dire que les personnes sont mariées, mais souhaitent malgré tout indiquer qu'elles sont éventuellement disponibles pour une rencontre.
Bah, alors, revenons et au vu, à notre. Au su de tous, comme ça.
Oui, c'est ça, mais c'est traditionnel.
Ah,
tout passe avec
pas
la tradition.
Là-bas, alors.
Non, alors, non, je voulais quand même revenir à la vaïnée parce que ça veut dire la tahitienne, hein, au ouais. Sens littéral du terme.
Ouais.
Donc, il faut savoir quand même que, et ça, c'est mon magazine préféré qui s'appelle Fenoa Orama. Qui a 26 ans d'expérience d'existence, quand même, décidément, ce matin, c'est lundi, hein, dites donc.
C'est alors, dur, le lundi.
Oui, c'est terrible. Mais, vraiment, c'est un magazine qui met les femmes tahitiennes et les femmes polynésiennes à l'honneur. Il faut savoir que les femmes sont plus diplômées que les hommes en Polynésie, que 40% des créations d'entreprises le sont par des femmes. Donc, voyez, le cliché de la petite vaïnée sur la plage, il faut arrêter avec ça. Hein.
Mais
ça,
on peut être
bon
une
pour
petite vaïnée sur la plage et avoir une entreprise.
Tout à fait. Enfin,
bah oui,
non, quand même, pour mettre les choses...
Bah oui, c'est
non,
drôle,
ce qui est,
ça.
Ce qui est intéressant, c'est, bah oui, mais c'est un cliché. La vaïnée sur la plage, c'est un cliché. Donc, c'est pour ça. En tout cas, à trois reprises, je tiens à rappeler que Miss Tahiti a été élue Miss France.
Ouais.
Hein, ça, c'est... Voilà. Donc, Mareva Georges, 1991. Mareva Galanter, 1999. Et Vaimalana Chavez, 2019. Et ça n'a... Eh ben, cette année, craque, une Miss manquait. Covid oblige. Donc là, ça nous a beaucoup manqué. Donc, ils sont prêts pour les prochaines. Alors... donc bien sûr, les secrets de beauté des vaïnées, vous en avez déjà parlé, les fleurs partout, le monoï, je rappelle la recette, huile de coco avec des boutons de fleurs de tiaré, très hydratant pour la peau, les cheveux, mais surtout pour les plongeurs, parce qu'on se met ça et ça permet de rester longtemps sous l'eau.
Le monoï ?
Oui,
ah
le
bon
monoï, ça fait une graisse sur le corps.
Ah oui, c'est un truc de plongeur.
Oui,
ça.
Mais je savais que ça allait vous plaire.
Et ça évite de dessécher la peau quand on sort, c'est ça ?
Ben, c'est hydratant, de toute façon, ouais. C'est hydratant. Alors, je voudrais parler d'une chose aussi très importante, le tatouage.
Oui.
Le tatouage, ça vous êtes tatoué vous-même ?
Non.
Non, tu n'es pas tatoué. Je te tutoie parce qu'en Polynésie, paraît-il, on se tutoie. Vous tutoyez votre banquier, etc.
Ouais.
Bon, fais-moi un
c'est
prix.
Vrai, voilà. C'est vrai. On se tutoie très facilement. Ce qui participe beaucoup à la douceur de l'endroit, d'ailleurs.
Mais oui, c'est drôle. Alors, le tatouage, vous savez que le mot vient de... C'est un mot polynésien qui veut dire frapper. Tataou. Oui, ça veut dire frapper. Pourquoi ? Car avant, les tatouages traditionnels maoris utilisaient une technique ancestrale. Âme sensible, s'abstenir. À l'époque, sans électricité, chez les maoris, figurez-vous qu'on tapait avec... On sculptait, évidemment, le tatouage à l'aide d'un peigne en nacre qu'on rentrait dans la peau. Les dents avaient été imbibées d'encre et on tapait avec un petit marteau pour faire rentrer, évidemment. Alors maintenant, me direz-vous, comment ça n'existe plus.
Ça devait être douloureux.
Oui, bah oui, maintenant, oui, c'est électrifié. C'est beaucoup moins drôle.
Merci beaucoup, Nathalie. Dans un petit instant, on va retrouver Didier Ferrat du guide Lonely Planet et ses bons plans pour aller en Polynésie, parce que c'est un voyage un peu compliqué quand même. À tout de suite, juste après Fleetwood Mac Dreams. Très bon souvenir, un grand souvenir, un petit bijou sur Europe 1. Qu'est-ce que c'était bien ça ? C'était en 1977, Fleetwood Mac Dreams.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait, tous les jours je vous emmène au bout du monde, là, on est vraiment de l'autre côté de la planète, en Polynésie, tous les jours entre 11h et midi sur Europe 1. Et je suis accompagné de mes amis voyageurs, Nathalie Corée, et puis Didier Ferrat qui nous a rejoint aujourd'hui, c'est sa rentrée, puisque notre ami Jean-Bernard Carrier est en vacances. On vous révélera où bientôt, parce que c'est quand même un des plus grands voyageurs qui soit, où part-il en vacances. On va laisser un peu le suspense. Didier, alors, la Polynésie... C'est un, on l'a dit, juillet, un moment fort pour les fêtes et les événements. Alors, Nathalie nous en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a d'autres moments à ne pas rater là-bas ?
Alors oui, il y a un heureux événement. Vous allez voir pourquoi. L'heureux événement, c'est l'arrivée des baleines. Les baleines à bosse. Parce que, oui, les baleines à bosse, effectivement, partent de l'Antarctique, donc à quelques 6000 kilomètres de là, hein, quand même. Ouais. Et elles arrivent pile en juillet et elles restent jusqu'en septembre-octobre dans les eaux chaudes de la Polynésie
française. Mais c'est très compliqué à observer, les baleines.
Pourquoi ? Ben non, vous allez voir justement. Pourquoi ? Eh ben parce qu'elles vont mettre bas dans les eaux chaudes. C'est le but du jeu, c'est de donner naissance aux petits baleines d'eau. Alors on se dit, c'est super compliqué effectivement d'observer les baleines. Pas du tout, justement. Et c'est la mecque, en fait, de l'observation des baleines à bosse, la Polynésie. Pourquoi ? Parce que d'habitude, quand on veut observer les baleines, on va sur un bateau, il fait froid, on est au Québec, c'est galère,
on voit rien,
etc.
C'est vrai, c'est vrai.
Là, c'est tout le contraire.
On voit que vous avez vécu.
Bah ouais. On est toujours déçus. Et là, vous ne serez pas déçus. Pourquoi ? Eh ben, il suffit d'un masque et d'un tuba pour observer les baleines. Parce qu'il y a évidemment, il faut passer par un prestataire. Il y a des prestataires qui organisent effectivement des plongées, mais des plongées toutes simples, accessibles à tous. Il y a juste une mise à l'eau. On se poste au bon endroit. Alors évidemment, il y a beaucoup de précautions à prendre. Il y a des chartes en fait qui doivent être respectées pour ne pas déranger le parcours de ces baleines.
Faut porter un masque.
Faut juste porter un masque.
Comme en ce moment, c'est-à-dire.
Oui, on est habitué.
Ah,
voilà.
Du Covid.
Bah oui,
c'était une blague.
Oh là là. Nathalie. Et donc là, c'est vraiment super simple et le spectacle est quand même très 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 impressionnant. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir d'abord un espèce de gros camion bleu, mais dans un paysage superbe d'eau. Translucide d'un camion, parce que ça fait quand même 20 mètres.
Mais un camion qui vous fonce dessus ?
Qui glisse avec douceur. On parlait de la douceur, c'est la douceur de Tahiti. Et ben, les baleines, elles sont très douces.
Mais ça doit être effrayant.
C'est pas effrayant, c'est impressionnant. Il faut être précis, Philippe. Impressionnant et surtout très beau. Et quand elles ont leurs petits baleineaux à côté, et parfois ils s'approchent vraiment, vraiment très près des snorkeleurs, donc de vous. Ouais. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment la vision d'une vie. C'est incroyable. Franchement, je recommande de faire ça avec des prestataires qui ont signé une charte parce que c'est très important pour l'environnement de ne pas les déranger.
Mais elles passent à quelle distance de nous, la grosse baleine ?
Elles sont à une vingtaine de mètres.
Mais c'est tout près.
C'est tout près.
C'est tout près.
C'est
incroyable.
C'est assez fantastique. Franchement, je vous le conseille.
Alors
on peut le faire à Tahiti, à Mouria. Il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs spots.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller en Polynésie sans se ruiner totalement, même s'il faut quand même lâcher un peu d'argent, parce que c'est un peu cher. Est-ce que vous avez des bons plans ?
Il ne faut pas se mentir, ça reste un voyage assez onéreux. Mais tout a changé pour y aller en 2018. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il y avait Air France et Air Tahiti Nuit qui allaient. Donc, il y avait un peu le monopole des vols. Mmh. Et à partir de 2018, il y a la low-cost French Bee, cette compagnie nouvellement créée, et également la compagnie américaine United Airlines qui ont commencé à desservir l'île, l'archipel. Et donc, du coup, les prix ont beaucoup, beaucoup baissé. Donc, aujourd'hui, on peut trouver des billets entre 1100 et 2800 euros. Je ne dis pas que c'est donné.
C'est pas donné quand même.
Pas donné, mais 1100, honnêtement, ça reste pour traverser. Vous traversez quand même le monde, le globe terrestre. Vous êtes obligé de faire une escale systématiquement en Amérique du Nord, à Vancouver, à San Francisco, en Californie. parce que ça dure quand même minimum 20 heures. Hein, ouais. Donc, c'est un voyage qui se mérite. Ouais. Mais il y a aussi des bons plans pour aller d'île en île. Il hein, y a de l'interpass, notamment parce qu'on va d'île en île.
Oui, parce que ce qui fait, c'est qu'on va souvent atterrir à Tahiti, bah oui. hein, qui est quand même l'aéroport oui. principal. Oui. Et puis, on n'est pas arrivé. Après, il faut reprendre un vol pour aller sur d'autres îles.
D'autant plus que, par exemple, les Marquises ou les Gambiers sont deux archipels différents. Ils sont quand même à 1500 km de Papeete. Donc, c'est à peu près 3 heures de vol. Donc, ouais, ça ouais. rigole pas. Il faut vraiment être motivé. Mais vous ne le regretterez pas. Et là encore, il y a des passes Interrail maintenant. Qui,
Interrail
les
passes,
les passes Interrail, parce que vous pouvez y aller en train, Philippe. Oui. C'est votre spécialité. Ouais, ouais,
ouais. Les passes j'ai jamais fait les trains en Polynésie. Je devrais y penser.
Interrail. Interrail qui permettent de, voilà, d'avoir des billets d'avion un petit peu moins chers entre les îles.
D'accord.
Voilà, parce qu'on peut y aller en bateau, mais il n'y a pas beaucoup de bateaux qui vont d'île en île.
Oui,
beaucoup
c'est
plus
assez,
galère.
C'est ouais. assez étonnant, ça,
mais
d'ailleurs.
Oui,
on pense qu'on va sur place, on va trouver un bateau. Pour... Ben non, c'est assez compliqué.
Il y en a entre Tahiti et Moorea, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, globalement.
Ouais. Parlons un peu de Bora Bora, quand même, parce qu'on ne peut pas aller en Polynésie sans parler de Bora Bora.
Alors, Bora Bora, c'est le mythe absolu. Hein. C'est le plus beau lagon du monde. C'est vraiment les 50 nuances de bleu que vous voyez de l'avion quand vous arrivez. C'est une île volcanique qui est enchâssée au milieu d'un lagon. Il y a des îlots, la barrière de corail. C'est vraiment la perfection absolue. Mais la grande différence par rapport à d'autres lieux mythiques comme Hawaï ou Saint-Barth, c'est que ça n'a pas été massacré par l'immobilier. Le calme est préservé. Alors, vous n'avez qu'une seule plage. Hein. Attention, ce n'est pas une destination plage, c'est une destination lagon. Tout est tourné. Le lagon, il y a une plage qui s'appelle Matira.
Mais il y a bien une plage au bord du lagon.
Non, justement, vous, en général, vous logez dans des bungalows sur pilotis. C'est vraiment le truc à faire en fin de voyage, parce que c'est vraiment le truc de rêve. Tout le monde a envie de passer une nuit sur ces bungalows sur pilotis.
Mais faut y aller en couple, en voyage de noces,
l'idée,
tout ça.
Évidemment, l'idéal, c'est d'y aller en voyage de noces.
Ah oui, vous voulez dire que si on y va en célibataire, c'est la déprime assurée.
Bah moi, je pense que c'est ça.
Là,
ça
il vaut mieux faire de la rando, c'est plus sympa.
Donc là, sur votre pilotis, hein,
tout seul.
Mais oui, mais alors sur votre pilotis, vous pouvez non seulement aller plonger, vous piquer une tête le matin, vous allez faire un barbecue sur un motu. On a parlé des motus tout à l'heure avec notre invité. Donc il y a quand même il y a pas mal de choses à faire, mais c'est vrai que l'idéal c'est de le faire en fin de parcours quand vous êtes un peu crevé par les plongées, la rando, on va en parler, par les voyages inter-îles, voilà.
Alors Bora Bora c'est l'île très très connue, hein, c'est pas très loin de Tahiti en plus. Est-ce que vous avez votre île à vous plus confidentielle?
Alors moi je vous conseille Maupiti, parce que Maupiti c'est la petite sœur de Bora Bora, c'est à peu près à 40 km donc c'est vraiment pas loin, mais elle est restée dans son jus, c'est un peu Bora Bora il y a 30 ans.
Ah c'est bien.
Pourquoi? Parce que les habitants ont toujours refusé les constructions hôtelières, donc il n'y a que très peu d'hôtels, on loge plutôt chez l'habitant. C'est vraiment un rêve de dépaysement, de tranquillité. C'est une vie de village. On peut faire uniquement du vélo. Il n'y a quasiment pas de route. On fait le tour de l'île qui fait à peu près 10 km. Donc, c'est vraiment de circonférence. Donc, c'est vraiment tout petit. C'est très sympa. Et en plus, il y a un très beau belvédère. Si vous faites une petite randonnée, on arrive à 300 mètres. Et là, on voit tout l'archipel des îles de la Société avec toutes les couleurs, les îlots. C'est super.
Merci beaucoup, Didier. Qu'est-ce qu'on voyage? Bon, on serait bien resté 2 heures en Polynésie. Les amis, on va se quitter là sur la Polynésie. Hélas. Mais on ne range pas sa valise, comme d'habitude. On la garde tout près, accessible, avec encore une fois des vêtements chauds. Puisque demain, on va repartir en voyage, et cette fois en Inde. Il est presque midi, le ventre commence à gargouiller, on a faim. Olivier Pouls est en approche. Bonjour Olivier.
Bonjour Philippe, je vous emmène pour un autre voyage. Nous prenons la direction du sud-ouest, terre bénie des canards. Alors canard à foie gras, mais vous allez voir que dans le canard, c'est comme dans le cochon, hein. Tout est bon, on peut tout
pas
manger.
Pas les pattes, pas les pattes.
Non, pas les pattes et pas les becs, mais à part ça, je peux vous dire qu'il y a mille et une recettes à réaliser avec ce canard. Et nous avons une grande chef qui nous accompagne toute cette semaine d'ailleurs. C'est la chef Amandine Chénio. Qui nous cuisinera donc ce bon canard du sud-ouest. Et c'est tout de suite sur Europe 1.
Merci Olivier, à tout de suite. Bonne journée à tous sur Europe 1. Profitez de l'été et surtout, n'oubliez pas de rêver.